l'Inde indépendante face aux inégalités statutaires issues du passé. Après l'indépendance en 1947, la République indienne mit en place la politique de discrimination positive la plus systématique jamais expérimentée. On associe parfois cette notion aux États-Unis, mais en réalité, les systèmes de quotas en faveur des Noirs ou d'autres minorités n'y ont jamais fait l'objet d'une politique publique assumée. Dans le contexte états-unien, les mesures d'admission préférentielle, par exemple dans les universités, ont toujours été appliquées à la marge du système et de la légalité, par des institutions volontaires et jamais dans le cadre d'une politique nationale et systématique. À l'inverse, la Constitution indienne de 1950 prévoit explicitement un cadre légal visant à corriger les discriminations issues du passé, avec les moyens en principe apaisés de l'état de droit. De façon générale, la Constitution de 1950 commence par abolir tous les privilèges de caste et par supprimer toute référence à la religion. Les articles 15-17 mettent fin à l'intouchabilité et bannissent ainsi toutes les restrictions d'accès dans les temples et autres lieux publics. L'article 48 donne toutefois de larges latitudes aux États pour réguler les conditions d'abattage des vaches. Les conflits à ce sujet seront à l'origine de nombreuses émeutes et de lynchages à l'encontre des Dalits ou de musulmans, régulièrement accusés de transporter des carcasses d'animaux abattus de façon indue. L'article 46 prévoit par ailleurs des mécanismes visant à promouvoir les intérêts éducatifs et économiques des Scheduled Castes, SC, et Scheduled Tribes, ST, c'est-à-dire les anciens intouchables et aborigènes discriminés. Les articles 338-339 organisent les commissions chargées du délicat travail de classement de la population de pays comme SC ou ST. L'article 340 prévoit des dispositifs similaires en faveur des Other Backward Classes, OBC. Dans un premier temps, seules les commissions visant à définir les SC et les ST furent mises en place. Le principe général était que les groupes classés comme SC et ST devaient rassembler des catégories de population remplissant une double condition. D'une part, elles devaient être objectivement défavorisées sur les plans du niveau d'éducation, des conditions de vie et de logement, et des types d'emplois occupés. Chacune de ces dimensions socio-économiques étant mesurée lors des recensements et des enquêtes officielles. Et d'autre part, ce retard socio-économique et ce dénuement matériel Material deprivation devait s'expliquer au moins en partie par des discriminations particulières subies dans le passé. Il s'agissait donc implicitement des anciens groupes d'intouchables et d'aborigènes placés en marge de la société hindoue traditionnelle, évoqués par exemple par Nesfield dans son récit de 1885. En pratique, à la suite des classifications mises en place par ces commissions, revues périodiquement, les différents recensements et enquêtes établirent que les SC et ST regroupaient environ 21% de la population indienne totale dans les années 1950-1970 et 25% dans les années 2000-2020. En principe, des groupes sociaux et des anciennes jatis, issus de toutes les religions, pouvaient se voir accorder le statut de SC ou ST. Dans les faits, les musulmans en étaient quasiment exclus, à peine 1%, 2% de SC/ST parmi eux. En revanche, près de la moitié des bouddhistes furent reconnus comme SC, suite notamment au mouvement de conversion relancé par Ambedkar pour fuir l'hindouisme, et près du tiers des chrétiens comme ST. De nombreux aborigènes et tribus isolées s'étaient convertis au christianisme à l'époque coloniale, ce qui avait d'ailleurs provoqué un soupçon d'insincérité au sein du pouvoir colonial. Le classement comme SC/ST ouvrait le droit à des places réservées dans les universités et la fonction publique, ainsi qu'à des circonscriptions réservées pour les élections législatives au niveau fédéral, en proportion des SC/ST dans la population. L'article 340 de la Constitution concernant les OBC mit beaucoup plus de temps à être appliqué. Toute la difficulté était que le champ couvert était beaucoup plus large, pouvaient y figurer toutes les catégories sociales en situation de retard socio-économique ou de dénuement matériel, sans que cette situation soit nécessairement imputable à une discrimination passée. Concrètement, les OBC pouvaient potentiellement inclure l'ensemble des Shudras, c'est-à-dire toute la population à l'exception des SCST et des plus hautes castes. Outre que les frontières inférieures et supérieures du groupe des OBC étaient difficiles à établir, les conséquences sur les élites de la société indienne étaient potentiellement beaucoup plus dommageables. Tant que les quotas ne portaient que sur 20-25% des places, les brahmanes et autres classes élevées n'étaient pas véritablement menacés. Il restait 75-80% de places disponibles, si bien que les meilleurs résultats scolaires obtenus par leurs enfants devaient suffire à leur trouver une place. Mais il en allait différemment si les quotas se mettaient à doubler ou tripler de taille, comme des États d'Inde du Sud avaient d'ailleurs déjà commencé à le faire avant l'indépendance, d'autant plus que le nombre absolu d'étudiants et de fonctionnaires était relativement réduit dans un pays aussi pauvre que l'Inde. Une première commission réunie en 1953-1956 conclut que les OBC représentaient au minimum 32% de la population totale, ce qui, en incluant le quota SCST, aurait impliqué des réservations portant sur 53% des places. Les réactions furent explosives au sein des hautes castes et l'État fédéral décida sagement de ne rien faire et de laisser les États expérimenter en la matière, ce qu'ils firent à grande échelle, en particulier en Inde du Sud. Au début des années 1970, la plupart des États avaient mis en place des mécanismes de discrimination positive allant au-delà des mécanismes fédéraux, en particulier en direction des OBC. Puis la commission Mandal, en 1978-1980, conclut que la mise en place des mécanismes fédéraux prévus par la Constitution ne pouvait plus être repoussée, et estima que les OBC devant bénéficier de quotas représentaient 54% de la population, et non plus 32%, ce qui démontra au passage les immenses difficultés rencontrées pour définir les contours de cette catégorie des OBC, en particulier dans sa frange supérieure. Le gouvernement fédéral se résolut finalement à lancer l'application des réservations OBC en 1989, ce qui déclencha des vagues d'immolations parmi de jeunes étudiants de haute caste qui en conclurent que leur vie était fichue, en dépit de leurs notes plus élevées que nombre de camarades OBC. La Cour suprême indienne valida le dispositif en 1992, tout en précisant que les quotas ne pourraient excéder 50% des places, en incluant à la fois les places pour les OBC et les SCST. Les commissions compétentes pour statuer sur les contours de la catégorie se mirent en place, et depuis 1999, les enquêtes NSS, National Sample Survey, de la statistique publique indienne, enregistrent officiellement les appartenances individuelles aux OBC. La proportion de la population classée comme OBC était de 36% en 1999, 41% en 2004 et 44% en 2011 et 2014, soit des niveaux assez différents de ceux envisagés par la commission Mandal, ce qui montre là encore la plasticité de la catégorie. Au total, au milieu des années 2010, on constate que près de 70% de la population indienne bénéficie de la discrimination positive, soit au titre des SCST, soit au titre des OBC. Voir graphique 8.5. Les quelques 30% qui n'en bénéficient pas sont constitués pour plus de 20% par les hautes castes hindous et plus généralement tous les hindous non classés comme SCST ou OBC, et pour un peu moins de 10% par les musulmans, chrétiens, bouddhistes et sikhs non classés comme SCST ou OBC. Ces groupes sociaux élevés étaient historiquement ceux qui concentraient la quasi-totalité des places à l'université et dans l'emploi public. L'objectif revendiqué des réservations est précisément que les 70% du bas puissent accéder à une part substantielle de ces places. Il faut noter que la catégorie des OBC est largement ouverte aux musulmans, contrairement aux SCST, ce qui a d'ailleurs contribué à nourrir la montée en puissance des nationalistes hindous du BJP, Bharatiya Janata Party. Ce parti, qui repose sur un discours anti-musulman assez marqué, attire par ailleurs un électorat de plus en plus centré sur les castes élevées, ce qui souligne l'interaction cruciale entre la structure socio-économique des électorats et l'évolution des mécanismes de redistribution sur lesquels se concentre le conflit politique et électoral. Nous y reviendrons dans la quatrième partie de ce livre. Il faut également préciser que la Cour suprême a introduit en 1993 un critère de revenu pour l'application des quotas. Si une caste est incluse parmi les OBC, alors sont exclus du bénéfice des quotas les membres de ce groupe faisant partie de la « creamy layer », littéralement la couche crémeuse, la couche la plus favorisée, c'est-à-dire les personnes bénéficiant d'un revenu annuel supérieur à un certain seuil, fixé initialement à 100 000 roupies en 1993 et qui est en 2019 de 800 000 roupies, ce qui en pratique exclut moins de 10% de la population indienne. Le dossier est cependant loin d'être clos. En particulier, ce dernier critère a posé la question centrale du lien entre l'appartenance à un groupe socialement et économiquement défavorisé et anciennement discriminé dans le cas des SCST et les caractéristiques individuelles telles que le revenu ou le patrimoine. Par ailleurs, lors du recensement de 2011, pour la première fois depuis le recensement de 1931, il fut décidé de recueillir des informations portant sur l'ensemble des identités de caste et de jati afin de procéder à une réévaluation générale des caractéristiques socio-économiques des différents groupes, à la fois en termes de niveau d'éducation, de catégories d'emploi et de logement, murs et toits en bambou, en plastique, en bois, en briques, en pierre ou en béton, de tranches de revenus du type d'actifs possédés, réfrigérateur, téléphone portable, mobylette, voiture, et de la taille des terres détenues. Le Socio-Economic and Caste Census, SECC, de 2011 tranche ainsi avec ceux menés de 1951 à 2001, qui recueillaient également le même type d'informations socio-économiques, mais sans poser de questions sur les castes et les jatis, à l'exception de l'appartenance au SCST. C'est l'ensemble du système de réservation qui est susceptible d'être révisé et affecté par cette remise à plat. Le sujet est toutefois explosif, et à la fin des années 2010, les résultats détaillés du recensement de 2011 n'étaient toujours pas accessibles. La Cour suprême a décidé fin 2018 d'étendre la règle de la creamy layer au SCST, ce qui revient à dire que l'impact de discrimination statutaire ancienne ne peut justifier éternellement des mesures de compensation. Compte tenu du niveau relativement élevé du seuil de revenu utilisé, l'impact restera toutefois limité. Au début de l'année 2019, le gouvernement indien, BJP, a fait adopter une mesure visant à étendre le bénéfice des réservations aux membres des hautes castes disposant de revenus inférieurs à ce seuil, sans pour autant réduire les quotas accessibles aux autres groupes. Il est probable que ces questions continueront d'agiter les débats au cours des décennies à venir. Succès et limitation de la discrimination positive à l'indienne. Les politiques de discrimination positive mises en place en Inde ont-elles permis de réduire les inégalités sociales liées aux catégories statutaires anciennes, ou bien ont-elles au contraire contribué à les figer ? Nous reviendrons sur cette question complexe dans les prochaines parties, en particulier quand nous étudierons les transformations de la structure socio-économique des clivages électoraux et politiques au sein de la plus grande démocratie du monde. Plusieurs remarques peuvent déjà être formulées. Tout d'abord, l'examen du cas indien montre à quel point il est indispensable de procéder à une vaste remise en perspective historique et comparative avant d'aborder l'analyse des régimes inégalitaires du XXIe siècle. La structure des inégalités en vigueur en Inde actuellement est le produit d'une histoire complexe, mettant en jeu la transformation d'une société trifonctionnelle ancienne, dont l'évolution a été considérablement affectée par sa rencontre avec les colonisateurs britanniques, qui décidèrent de mettre en place une codification administrative rigide des identités sociales locales. L'enjeu aujourd'hui n'est plus vraiment de savoir comment le régime inégalitaire indien aurait évolué sans la colonisation. La question est largement indécidable, tant les deux siècles de présence britannique sous l'emprise de l'EIC, 1757-1858, puis de l'administration directe, 1858-1947, ont totalement bouleversé les logiques antérieures. La question importante est plutôt de déterminer les meilleures stratégies permettant de sortir par le haut de ce très lourd héritage inégalitaire, à la fois trifonctionnel et colonial. Les éléments disponibles suggèrent que les politiques menées en Inde ont permis de réduire significativement les inégalités entre les anciennes castes discriminées et le reste de la population entre les années 1950 et les années 2010, d'une façon plus forte, par exemple, que dans le cas des inégalités entre noirs et blancs aux États-Unis, et incomparablement plus forte que les inégalités entre noirs et blancs en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. Voir graphique 8.6. Ces comparaisons sont certes loin d'épuiser le débat. Le fait que les Noirs sud-africains disposent d'un revenu moyen inférieur de 20% à celui des Blancs dans les années 2010, alors que les SC et ST, anciens intouchables et aborigènes discriminés, disposent d'un revenu supérieur de 70% à celui du reste de la population, doit être relativisé, dans la mesure où les deux configurations sont très différentes. Les Noirs représentent plus de 80% de la population sud-africaine, alors que les SCST forment 25% de la population indienne. La comparaison avec les Noirs états-uniens, 12% de la population, est de ce point de vue plus pertinente. Elle montre une réduction des écarts sensiblement plus forte dans le cas indien, pour un même point de départ dans les années 1950, avec un ratio autour de 50%, autant que les données imparfaites permettent d'en juger. Le ratio entre le revenu moyen des basses castes en Inde et celui du reste de la population est passé de 57% en 1950 à 74% en 2014. Le ratio entre le revenu moyen des Noirs et des Blancs est passé dans le même temps de 54% à 56% aux États-Unis. Le niveau de vie moyen demeure toutefois autrement plus faible en Inde qu'aux États-Unis, ce qui limite la portée de l'exercice. Les enquêtes disponibles permettent également de constater que, si les membres des anciennes castes élevées, en particulier les brahmanes, continuent de bénéficier de revenus, de patrimoine et de diplômes sensiblement plus élevés que le reste de la population, les écarts observés sont d'une ampleur nettement plus modérée que dans d'autres pays marqués par de fortes inégalités statutaires comme l'Afrique du Sud, ce qui, il est vrai, revient là encore à ne pas fixer la barre très haut. De façon peut-être plus probante encore, de nombreux travaux ont montré que les mécanismes mis en place dans le cadre de la démocratie parlementaire indienne avaient permis, dans une large mesure, d'intégrer les classes populaires au jeu électoral et politique. En particulier, les réservations de sièges pour les SCST appliquées à toutes les élections législatives fédérales depuis le début des années 1950 ont conduit tous les partis politiques à promouvoir des élus issus des SC et ST, en proportion de leur part dans la population. Et il est très peu probable qu'un tel résultat aurait été obtenu en l'absence d'un tel mécanisme. Les élus SCST ne semblent pas voter différemment des autres ou conduire à des politiques socio-économiques différentes au sein d'un parti donné, ce qui peut être vu comme une déception ou au contraire comme le signe d'une intégration sociale réussie au sein des partis et du système politique. En 1993, un amendement à la Constitution a contraint les États qui ne l'avaient pas encore fait à réserver aux femmes un tiers des panchayats, mairies. Des travaux ont montré que le fait d'avoir expérimenté des femmes à la tête de son panchayat avait permis de réduire fortement les stéréotypes négatifs vis-à-vis d'elles, mesurés par exemple par les réactions suscitées par la lecture de mêmes discours politiques par des voix masculines et féminines, ce qui constitue peut-être la preuve la plus convaincante de la nécessité et de l'efficacité potentielle des politiques de discrimination positive pour venir à bout de préjugés anciens. Des débats sont toujours en cours en Inde pour savoir s'il faudrait également amender la Constitution pour réserver aux femmes un tiers des circonscriptions aux élections législatives fédérales et sur la façon dont ces nouvelles réservations devraient s'articuler avec les sièges réservés aux Scheduled Castes et Scheduled Tribes. Plus généralement, concernant l'intégration politique des classes défavorisées, et en particulier des OBC, qui, contrairement aux SCST, ne bénéficient pas de quotas de sièges au niveau fédéral, au sein de la démocratie parlementaire et électorale indienne, il faut souligner le rôle essentiel joué par le développement depuis les années 1980-1990 de nouveaux partis visant à mobiliser les plus basses castes. Cette démocratie par la caste, analysée notamment par Christophe Jaffrelot, a parfois pris la forme de partis politiques surprenants aux yeux des élites qui, en Inde comme ailleurs, sont souvent tentées de qualifier de populistes des mobilisations populaires dont elles se sentent exclues. En 1993, l'un des slogans du BSP, parti de basse caste qui a pris le pouvoir en Uttar Pradesh dans les années 1990 et 2000 avant de devenir le troisième parti en voie aux élections fédérales de 2014, derrière les nationalistes hindous du BJP et le Parti du Congrès, exprimait un rejet parfaitement explicite des hautes castes « Priest, Merchant, Soldier, Boot them out forever ». Nous verrons dans la quatrième partie de ce livre que ce type de mobilisation a permis une forte participation démocratique, ainsi que le développement d'une forme de clivage de classe au sein du système électoral indien, ce qui n'avait rien d'évident dans le contexte des dernières décennies. Cela étant posé, il serait tout à fait inadapté d'idéaliser l'utilisation qui a été faite des systèmes de réservation comme vecteur privilégié de la réduction des inégalités en Inde, et plus généralement, la façon dont les identités de caste ont été instrumentalisées dans le jeu politique indien. Par construction, les places réservées dans les universités, la fonction publique et les assemblées élues ne peuvent concerner qu'une petite minorité des classes sociales les plus désavantagées. Ces promotions individuelles sont très importantes et peuvent parfaitement justifier des mécanismes de quotas, surtout dans des situations où les discriminations et les préjugés sont aussi clairement établis que dans le contexte indien. Mais elles ne peuvent suffire. Pour réduire véritablement les inégalités sociales en Inde, il aurait surtout fallu investir massivement dans les services publics de base ouverts aux couches indiennes les plus défavorisées, SC, ST et OBC confondus. Par-delà les anciennes frontières statutaires et confessionnelles, notamment en matière d'éducation, de santé publique et d'infrastructures sanitaires et de transport. Or, les ressources investies ont été très limitées, non seulement évidemment par comparaison aux pays les plus riches, mais également et surtout par rapport aux voisins asiatiques. Au milieu des années 2010, les budgets publics totaux alloués à la santé dépassait ainsi à peine 1% du revenu national en Inde, contre plus de 3% en Chine et 8% en Europe. Pour Jean Drez et Amartya Sen, le fait que les classes indiennes les plus aisées ont refusé de payer les impôts requis pour financer les dépenses sociales nécessaires est pour partie la conséquence d'une culture politique hindoue particulièrement élitiste et inégalitaire, que le système de quotas permet d'une certaine façon de dissimuler. Il en résulte que l'Inde, malgré les succès indéniables de son modèle de démocratie parlementaire, d'état de droit et d'inclusion politique et juridique des classes populaires, a perdu beaucoup de terrain sur le plan du développement économique comme des indicateurs sociaux élémentaires, y compris vis-à-vis de pays voisins qui n'étaient pas spécialement plus avancés dans les années 1960 ou 1970, loin de là. Si l'on examine l'évolution des indicateurs sanitaires et éducatifs disponibles depuis les années 1970-1980, on constate que la comparaison tourne au désavantage de l'Inde, non seulement vis-à-vis de la Chine et d'autres pays communistes ou néo-communistes, comme le Vietnam, mais également vis-à-vis de pays moins élitistes que l'Inde, comme le Bangladesh. Dans le cas de l'Inde, il est particulièrement frappant de constater que le déficit criant d'infrastructures sanitaires comme l'eau courante et les toilettes, d'après les estimations disponibles, la défécation ouverte concernait encore la moitié de la population au milieu des années 2010, aille de pair avec un discours politique stigmatisant et des mesures parfois explicitement discriminatoires pour les populations concernées. En 2015, les gouvernements BJP du Rajasthan et de l'Haryana ont restreint l'accès aux fonctions électives aux personnes disposant de toilettes et d'une éducation suffisante, scolarité minimum de 5 ans pour les femmes et 8 ans pour les hommes, et ces mesures furent validées par la Cour suprême. En 2018, un formulaire d'admission scolaire demandant si les parents avaient une « unclean occupation » et visant clairement les enfants d'anciens intouchables fit scandale et fut finalement abandonné dans l'Haryana. Il faut certes ajouter à ces facteurs le poids de l'environnement international. Dans un contexte idéologique et institutionnel marqué par une concurrence fiscale exacerbée pour attirer les investisseurs privés et les contribuables les plus riches et par le développement sans précédent des paradis fiscaux, il s'est avéré de plus en plus difficile depuis les années 1980-1990 pour les pays les plus pauvres, en Inde mais aussi dans d'autres parties du monde, en particulier en Afrique subsaharienne, de développer des normes de justice fiscale et des niveaux de recettes adaptés à une stratégie ambitieuse de construction de l'État social. Nous reviendrons de façon détaillée sur ces questions dans la prochaine partie. Il reste que, dans le cas de l'Inde, l'insuffisance des dépenses éducatives et sanitaires en faveur des classes les plus défavorisées peut également être reliée à des facteurs domestiques plus anciens. En particulier, ce retard doit être mis en parallèle avec le développement dès 1950 des réservations en faveur des basses castes, politique qui, aux yeux des classes favorisées progressistes la soutenant, en particulier au sein du Parti du Congrès, avait le grand mérite de ne rien coûter à personne en recettes fiscales et, au final, se faisait principalement au détriment des OBC. À l'inverse, la mise en place d'un service public universel d'éducation et de santé de qualité élevée, accessible à tous, en particulier aux SCST comme aux OBC, aurait eu un coût fiscal important, notamment pour les groupes les plus favorisés.